Pour moi, le jazz, c'est la trance, du moins comme je l'ai connu au début et comme je l'ai entendu à la Nouvelle-Orléans. Mais justement, le jazz est quelque chose qui forme une unité avec l'audience. Or, si l'audience elle-même est froide, à mon sens, le jazz ne peut pas être en état de transe ou de frénésie. En réalité, qu'est-ce que c'est que le jazz pour moi? Moi, je sens dans le jazz de l'improvisation. Et du moment où il y a quelque chose qui est prémédité, cela me touche moins. C'est-à-dire qu'on abolit, à mon sens, une des puissances du jazz. Par conséquent, pour moi, il y a de la transe lorsqu'il y a de l'improvisation.
Mais pour vous, M. Goffin, ce phénomène de transe que recherche le musicien de jazz est-il courant?
Courant, il ne court pas, mais tout de même, laissez-moi vous dire qu'à mon sens, à l'origine du jazz, il y a la transe. Sans transe, la transe, au fond, vient d'Amérique avec le tam-tam. Et c'est ça qui distingue l'origine du jazz à la Nouvelle-Orléans. Il y a la transe. C'est-à-dire que les gens entraient en transe lorsqu'ils jouaient parce qu'ils perdaient le contrôle, parce qu'ils perdaient la logique. Voilà comment je conçois le jazz. Alors vous me demandez, est-ce que la transe est courante? Elle est courante. Et au début, quand je m'en suis occupé, car laissez-moi tout de même vous dire que je m'intéresse au phénomène du jazz, depuis 1919, quand j'ai entendu les premiers orchestres, eh bien je constatais qu'il y avait de la transe. Et j'ai même constaté quelque chose qui est plus exceptionnel. C'est que ceux qui n'avaient pas la transe, car il y a malgré tout parmi les musiciens de jazz, des musiciens qui sont des musiciens froids, qui ont un contrôle sur ce qu'ils font. Et ce contrôle est naturellement le propre du musicien européen. Eh bien, j'ai vu que parmi ces musiciens, là-bas, en Amérique, il y en a qui suppriment la logique, qui suppriment le pouvoir de contrôle.
Quelques mots, me présenter, je suis Franck Bergerot de Jazz Magazine, rédacteur en chef de Jazz Magazine. En fait, c'est un journal qui est dirigé par deux personnes, le directeur de la rédaction qui est Frédéric Goati et moi-même qui ai travaillé dans d'autres journaux auparavant, Jazz Out, Au Monde de la Musique, etc. Oui, alors ça ne s'appelait pas encore le jazz en 17. Le mot jazz, il est apparu en 1915-1916, par là, mais il n'était pas arrivé jusqu'en Europe. Par contre, les Européens, et je dirais même les en Afrique du Sud, voire en Amérique du Sud, on connaissait les talents des Afro-Américains à travers des chorales de Negro Spirituals qui circulaient déjà, qui tournaient. Et aussi auparavant à travers des groupes qu'on appelait les Minstrel Shows, qui au départ étaient des formations de musiciens blancs qui se grimaient en noir pour parodier la musique noire des plantations. Et puis qui, après la guerre de sécession, les Noirs ont récupéré cet art du Minstrel Show. Et donc, c'était une espèce de théâtre un peu bouffon où on jouait des musiques, ce qu'on appelait les musiques des plantations, une espèce de folklore qui était en fait un mélange de folklore noir des plantations, de folklore blanc qui venait, dont les origines étaient écossaises, anglaises, de chants religieux qui étaient beaucoup d'origine anglaise, c'était des chants méthodistes, et puis de musique de salon aussi, on jouait des quadrilles, des valses, des scottish, etc. Donc il y avait tout ce mélange-là avec déjà des choses qui annonçaient le blues. Now I don't suppose for a minute any of you coons has got a raver. Well, that's right. You won't need them where I am. I'm just as good as a regiment of ravers. Now when I step in the middle of the floor, it means give me room.
And you all know me, and you know you can't walk on a floor all covered with blood. Now, I'm the judge and the jury, and if any of you bad coons pops in and pestles me, I'm going to cut you down in the flower of your youth, you dummy. Take your partner for the cakewalk.
Swing round and go your clothes, my lady. Don't you take your divas off that thing. We'll make all of our clothes a thing. Don't make a mistake.
Chez les Noirs, il y avait une approche rythmique où on ne joue pas forcément le temps sur le temps, mais on le joue en l'air, parce que la musique africaine n'est pas une musique qui se mesure précisément avec des barres de mesure, mais qui est une musique où toutes les valeurs flottent un petit peu et se complètent les unes les autres. En fait, c'était un régiment noir, qui est le premier régiment noir qui est débarqué. Hein, donc, à partir de 1917, des troupes américaines arrivent en France. Et ce régiment noir, qui était le 15e de la garde nationale de New York, avait été constitué par des Noirs, à la demande des Noirs, pour participer à l'effort de guerre, parce que la bourgeoisie noire aspirait à une reconnaissance en tant que citoyen à part entière, hein, ce qui n'était pas le cas. L'Amérique était très raciste à l'époque, il régnait une farouche ségrégation, surtout dans le sud, mais également quand même dans les villes du nord. Et donc, il y avait une aspiration de participer à l'effort de guerre pour acquérir ce statut de citoyen à part entière. Donc, ce régiment est arrivé à Brest avec une fanfare, parce qu'en général, dans les régiments, à l'époque, il y avait une fanfare, et cette fanfare était dirigée par Jim Europe, qui était une des grandes figures de la scène musicale noire, noire new-yorkaise. Et quand ils sont descendus de bateau, Jim Europe a demandé à ses musiciens de se tenir prêts pour jouer quelque chose sur le quai. Ils ont joué la Marseillaise, et cette Marseillaise un petit peu syncopée a tellement surpris le public français qu'il a mis du temps à la reconnaître, il a mis du temps à se découvrir, ne sachant d'ailleurs pas si une Marseillaise aussi dansante devait mériter d'être saluée en retirant son chapeau.
Depuis 5 ans, d'immenses travaux ont bouleversé les deux rives de la Seine, entre les Invalides et la Tour Eiffel. Une ville nouvelle, éphémère, se créait à l'intérieur de l'autre. Tout un quartier de Paris prenait l'aspect fabuleux d'un pays inconnu dont la porte monumentale du plus pur moderne style se dressait près de la place de la Concorde. Près du pont Alexandre III qui vient d'être terminé, s'élèvent deux constructions monumentales qui resteront à Paris les seuls vestiges des fastes de l'exposition, le Grand et le Petit Palais.
Indirect plus que direct, c'est-à-dire que très peu ont été exposés directement à la musique noire. Ils ont entendu des choses. Il y avait une mode déjà du ragtime qui était dès 1900, dès le milieu des années 1900. Le ragtime était arrivé avec une danse. Il y avait une danse qui était la mode, qui était le keko, qu'on a découvert à l'exposition universelle de Paris en 1900. Et très vite, on s'est mis à danser le keko, qui a essayé de jouer ses rythmes. Et Claude Debussy a composé un keko lui-même en 1908, je crois. Et puis ensuite, il y a eu plein de choses comme ça, notamment Stravinsky dans les années 10. A composé des choses inspirées du ragtime, mais il n'avait pas entendu de ragtime. Il avait vu des partitions de ragtime. C'est très différent. Donc, en fait, il avait une idée du rythme, de la syncope qu'il a voulu exploiter, mais il n'avait jamais entendu de ragtime. Et très peu, en fait, des compositeurs comme Ravel, qui a composé un blues pour violoncelle, une sonate pour violoncelle et piano, dont un mouvement est un blues, eh bien, très peu avaient vraiment entendu du jazz, surtout que la musique de Jimmy Europe n'était pas du jazz. Il y avait déjà un jazz qui venait de la Nouvelle-Orléans, qui était improvisé, qui était de l'improvisation collective, qui était complètement différent et qui était vraiment l'origine du jazz qu'on entend aujourd'hui. Alors que la musique de Jimmy Europe était un mélange de musique européenne, de syncope, c'était vraiment très très différent.
Viennent un jour jouer à Paris. Eh bien, je suis musicien. Je le suis depuis 65 ans à peu près. Et à 69 ans, je n'avais jamais quitté mon pays. Louis Armstrong m'a dit que le jour où je viendrai en Europe, c'est qu'un pont aurait été construit au-dessus de l'Atlantique. Ce n'était pas vrai. Il n'y a toujours pas de pont et j'y suis à Paris. D'ailleurs, je ne suis pas dépaysé du tout, c'est que j'ai des liens avec cette ville. Mon père était parisien. Il quitta Paris pour l'Amérique, et c'est là-bas, en Louisiane, que je suis né. Près d'une ville au nom français, au bord d'un fleuve de nom indien. Le Grand et Boueux Mississippi, qui vient de quelque part dans le nord, et traverse tout mon pays. Quand j'étais enfant, c'était ma rivière. Et c'est là que je venais écouter ma première musique. C'était la musique d'un peuple qui vivaient sur ces rives, de tous ces gens, souvent venus de loin, qui gardaient en eux le souvenir et la musique des pays d'où ils venaient. Et le Mississippi brassait et emportait tout vers la Nouvelle-Orléans.
Et ce qui fait que les, oui, ces compositeurs, ils ont entendu ça, et puis ensuite ils se sont mis à faire du jazz entre eux, puisque même Jean Cocteau s'est mis à jouer de la batterie, ce qui ne devait pas être terrible. Ils se retrouvaient au Gaïa, qui était un bar du 8e arrondissement, puis ensuite ils se sont retrouvés au Bœuf sur le Toit, et là il y avait toute l'intelligentsia française qui se réunissait, mais il y avait déjà du jazz qui se jouait au pied de la butte Montmartre, mais n'y allait pas. Darius Milhaud, lui, a été aux États-Unis, il a été à Chicago, il a ramené un disque d'un orchestre dont je n'ai pas le nom en tête. Darius Milhaud a composé en s'inspirant du jazz, mais on n'entend pas le jazz dans ce qu'il compose. Et en fait, il y avait un espèce de malentendu. Par contre, dans les années 20, il y a une communauté de musiciens noirs qui s'installe du côté de la rue Pigalle, de la rue Fontaine, de la rue Blanche, et dans un certain nombre de clubs, il y a plein de clubs, et là, c'est très peu fréquenté par les par l'intelligentsia blanche, enfin française, par les compositeurs dont on vient de parler. C'est plutôt fréquenté par une espèce d'aristocratie et puis des Américains de passage. Et là, il y a un vrai jazz qui commence à apparaître, tant et si bien qu'un jour, on y a entendu plusieurs fois Sidney Bechet, le grand saxophoniste Sidney Bechet est passé par là. Et d'ailleurs, il a été emprisonné parce qu'il a échangé des coups de feu rue Fontaine avec un collègue.
Après la guerre précédente, en 1920, si vous voulez, lorsque j'avais à peu près, moi, l'âge qu'avaient ces gens-là quand je les ai vus dans la cave du Lorientais, je me suis mis à aimer le même genre de musique, après l'autre guerre. Alors ça m'a frappé, ça m'a touché, et j'ai cherché à savoir pourquoi. J'ai pensé que ça venait tout simplement de ce que, après la guerre précédente, la guerre de 14, l'attention du public jeune avait été attirée par les Américains et par tout ce qui touchait à l'Amérique, notamment leur musique. Et il s'est trouvé qu'après la guerre suivante, le même phénomène s'est produit. Mais ce qui est frappant, c'est que les jeunes se soit tournée non pas vers la musique que jouaient les Américains à l'époque en 45, mais vers une musique plus ancienne, celle qui jouait il y a 20 ans auparavant, n'est-ce pas? Et ça m'a beaucoup donné à réfléchir. Lorsque j'ai vu ces jeunes gens et ces jeunes filles, tellement attentifs à la musique que jouaient leurs camarades, car ils étaient extraordinairement attentifs. Ils ne dansaient même pas, ils écoutaient. C'était très frappant. Quelques-uns d'entre eux dansaient, mais c'était rare, n'est-ce pas?
Oui, d'ailleurs, beaucoup.
C'était des spécialistes, d'ailleurs.
D'ailleurs, beaucoup croient que le jazz n'est simplement qu'une musique de danse.
Oui, oui. En réalité, n'est-ce pas, je crois que c'est tout à fait autre chose. Je me demande, par exemple, pourquoi il se trouve qu'à 50 ans, n'est-ce pas, je m'intéresse tout autant à ce genre de musique que lorsque j'en avais 14. Ça fait tout de même un petit bail maintenant.
Il y a deux choses. Il y a la musique que les régiments noirs, parce qu'il n'y avait pas que Jimmy Europe, il y avait beaucoup de régiments qui jouaient une musique syncopée, hein, on va appeler ça comme ça pour ne pas utiliser le mot jazz. Et ces régiments, Jimmy Europe, lui, a joué beaucoup à Aix-les-Bains pour les blessés et les permissionnaires, mais la ville d'Aix-les-Bains lui a fait un triomphe, et je pense que ça a touché vraiment tout le monde. Et dans les villages où ces régiments passaient, ils rencontraient beaucoup de succès. Donc c'était très populaire. Par contre, à Paris, il y avait un phénomène qui était très particulier, qui était très parisien, et dans des théâtres qui étaient peu fréquentés par les gens du peuple, le gens du peuple fréquentant plutôt les bals musettes où on dansait la java et la polka et la valse.
Mais on dit bal masqué, c'était vraiment des bals
masqués? Oui, parce que les artistes, c'est comme les quatsars, n'est-ce pas? On s'habillait, c'est une tradition.
Vous n'avez pas l'air d'accord, vous?
Non,
d'accord,
pas du tout. Le bal nègre a été lancé par Robert Desnos qui demeurait à côté. D'accord. Et les premiers qui ont été au bal nègre rue Blomet, c'est Robert Desnos, Maneret, Kiki et moi.
Maintenant,
et puis alors après on y a amené plein d'amis et ça n'était que des noirs.
Écoute Thérèse,
on n'était pas masqués, c'était la biguine.
Enfin c'était pas, il faut s'entendre, c'était masqué ou c'était pas masqué?
C'était
pas masqué.
Attendez, je vais vous mettre les choses au point parce que nous sommes tous très occupés et moi particulièrement.
Ah, ce qui me fascine dans le jazz, c'est que c'est une musique qui est portée par un élan extraordinaire. Il y a une espèce de dynamisme rythmique. C'est une musique qui est ancrée dans la terre par le tempo, son rapport au tempo. Même si le rythme est extrêmement compliqué, les musiciens qui jouent du jazz sont des gens qui ont un sens du temps qui est exceptionnel, qui vient de cette tradition nord-américaine où le temps flotte tout le temps, mais en même temps il y a un ancrage sur le tempo et la capacité d'improviser, la capacité de prendre des initiatives en termes d'arrangement, une liberté absolument extraordinaire et qui reste aujourd'hui à travers un jazz qu'on écoute peu parce qu'il est jugé soit trop compliqué, soit démodé, mais il y a une scène encore très très vivante avec des choses. Ça n'a jamais été aussi diversifié avec l'apport des musiques du monde, avec le mélange des différentes écoles, avec l'apport du hip-hop, l'apport de la techno, mais tout ça assimilé par des instrumentistes qui sont des virtuoses de leur instrument, et des gens qui ont une feeling absolument incroyable et sont toujours ce sens du tempo. Et puis ça a été un peu la musique du XXe siècle, c'est une musique. Il paraît que dans certaines écoles de management, on étudie le jazz parce que le jazz est à l'art du management. C'est comment organiser un orchestre et comment gérer le temps, comment gérer la musique en temps réel quand on ne sait pas ce qu'on va jouer.
Je pense que ceux qui aiment sincèrement le jazz, le bon, n'est-ce pas? D'ailleurs, le bon, c'est très difficile à définir. Je crois que le bon jazz est celui qu'on aime personnellement, n'est-ce pas? Que le mauvais est celui qu'aiment les autres. Mais, enfin, soyons pas trop pessimistes. Disons qu'il y a quand même, pour un certain nombre de gens, une espèce d'unanimité autour de ce qu'il est convenu d'appeler le bon jazz. Et je pense que les gens qui aiment ce genre de musique l'aiment très sérieusement et que il n'y a ni pédantisme chez eux, ni aucun vice d'aucune sorte, que c'est une chose extrêmement fraîche, spontanée, agréable, n'est-ce pas?
Ce pont dont Louis a parlé, je me demande si, après tout, il n'existe pas.